Merci beaucoup, Michel. Bon, on va ouvrir un peu la discussion. J'ai quelques questions. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question que tu poses par rapport à, dans la lignée des Foucault, par rapport à laisser mourir, donc et faire vivre, bien sûr, la biopolitique, et c'est laisser mourir en t'écoutant, je me dis, finalement, on n'arrive pas à s'en sortir de cette dialectique, finalement, que lui, il a posé en disant que pour qu'une société puisse vivre, en quelque sorte, il y a cette division entre ces deux contradictions, ces forces. Et il me semblait que là où tu amènes quelque chose de nouveau par rapport à tout ce que nous, on entend, en tout cas ici, tu entends dans cette école, c'est cette nouveauté aujourd'hui, c'est par rapport à la mobilité, quand on quitte un endroit et on arrive à, pas forcément à quelques lieux, parce que ça, tu l'as en quelque sorte laissé entendre un peu, mais je pense que la nouveauté qui t'apporte aussi, c'est que cet étranger, quand il arrive dans un pays, par exemple en France, et il suffit qu'on les mette à l'aéroport, à la fameuse bureau des étrangers, et il n'est plus en France. Donc il a cette perte des droits. Comment, et avec ton dernier exemple de ces personnes américaines qui a été confondue, on est réduit à son corps tout de suite. Et comment les par-lettre, en quelque sorte, toutes ces constructions que nous, on se prend la tête à développer, qui prennent énormément de temps, n'ont aucune fonction. C'est-à-dire qu'ils sont des lieux que tu décris où des par-lettre est suspendu, il en est réduit à son corps, il en est traité comme si on était seulement un corps. Et il me semble que c'est ça qui t'apporte des risques aujourd'hui, de comment nous pouvons être pris dans une façon de penser au niveau planétaire, des flux migratoires, etc., où n'importe qui entre nous, parce que du coup, une personne y échappe, peut être réduit à son corps. Et ne pas pouvoir échapper. Après, peut-être pour développer toute la question de l'ethnologie que tu n'as pas dit par rapport à ces questions ethnologiques aujourd'hui, comment on essaye d'attraper ces questions, et tu as dit un peu par rapport à la race, c'est-à-dire qu'on essaye d'attraper ces différences par l'ethnologie. Donc, justement, tous ces discours que tu as critiqués en disant que, du coup, la race revient en disant. Donc, on va résoudre cette affaire à partir de la différence. Il peut être nous dire pourquoi tu n'aimes pas ces mots de différence et tu proposes un autre type de mots. Il peut être par rapport à ça. Voilà.
Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très riche. Bon, j'avais des questions qui rejoignent ce que tu soulignais effectivement sur la réduction au corps, et puis un peu aussi autour de cette critique aussi du culturalisme, parce que je pense que ça rejoint la question de l'identité, qui est une question aussi qui nous occupe. Hein. Donc, si tu pouvais dire quelque chose aussi de ce que l'anthropologie veut développer justement, quand elle critique le culturalisme autour de cette notion d'identité. Tu dis beaucoup de choses dans ton dernier livre, mais là tu as évoqué quelques points, mais si tu pouvais élargir un peu là-dessus. Et puis peut-être aussi, tu l'as juste mentionné, sur la question de l'hospitalité, puisque cette figure de l'étranger absolu, elle amène en contrepoint la question de l'hospitalité, pas uniquement du rejet. Et dans ton dernier livre, tu soulevais la question, je crois en reprenant... Anne Gottman, en signalant que l'hospitalité était asymétrique, mais réciproque. C'est-à-dire inégale, mais réciproque. Alors, de quelle relation il s'agit, justement, quand il y a hospitalité, et que cette alien, cette figure de l'étranger absolu, n'est plus rejetée. Il semble que l'étude anthropologique, elle repose justement sur l'étude de cette relation.
Merci beaucoup. Justement, pour reprendre là tout de suite et enchaîner, justement, ce qui peut se faire autour de, d'un cadre qu'on va appeler d'hospitalité, on pourra rentrer dans le détail, mais disons déjà dans un contexte, dans une, un esprit d'hospitalité, un principe d'hospitalité, dans ce cadre-là, il n'y a plus d'aliens. C'est-à-dire que là, quand je travaille avec ces termes-là, comme je disais au début, ce ne sont pas des catégories, ce ne sont pas des identités, ce sont des manières de désigner, ce sont des manières de voir. Ce sont, si on veut, on peut dire, ce sont des... Encore que, avec vous, je vais faire attention avec ce mot. Là, ce sont des représentations. Voilà, ce sont des représentations. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais ça veut dire que ça désigne simplement des manières de faire. Donc, bien sûr, pour moi, l'alien n'existe pas. Toutes les autres formes, les autres principes selon lesquels on est plus ou moins étranger, foreigner, outsider, stranger, existent plus ou moins. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de les faire... changer, modifier, être plus ou moins haute, plus ou moins basse, et qu'est-ce que provoque l'hospitalité? L'hospitalité provoque la relation. Et donc, dès qu'on est dans une relation, on sort de ce cadre-là que j'évoque, puisqu'on n'est plus dans l'ordre des représentations, encore qu'il y a encore des représentations, mais on est dans quelque chose qui change tout, on est dans l'épreuve de l'altérité, on est dans l'épreuve de l'autre, et donc à ce moment-là, alors il peut toujours y avoir, même dans la personne qui accueille, c'est pour ça que le rappel de Jean-Luc Nancy et de l'intrus est important, parce que même chez la personne qui accueille, il peut y avoir par exemple une certaine hostilité de l'autre, il a un peu de peur, par exemple, toutes les enquêtes qu'on a faites dans le programme Babès, dont je m'inspire pour ce travail, et qui ont consisté à travailler aussi avec des gens qui accueillaient, ben on voit bien que l'inconfort, la gêne, etc., ou les choses qui se passent mal, s'il y a des choses qui se passent mal, tout ça signifie que, bien évidemment, ces représentations-là, ces différents modèles de l'autre ne disparaissent pas. Mais ce qui change catégoriquement, c'est la relation. Il y a une relation, il y a une vraie relation avec sa singularité, ses singularités des gens, des vrais gens qui se rencontrent. Et à ce moment-là, bon ben, on change complètement. L'autre garde bien sûr une part de son étrangeté, de son altérité, de son extranéité, etc. Mais je m'en rapproche personnellement, on se rapproche personnellement, et petit à petit, on va devenir de plus en plus proche. C'est ça qu'on peut parler aussi à ce moment-là d'une altérité proche, comme on est avec on est avec son conjoint, par exemple, on est dans une altérité proche, on n'est pas pareil, on est dans une altérité proche. Et donc il y a toujours de la, en fait il y a toujours de la graduation comme ça.
Donc
je sens que j'ai appuyé sur un bouton. Alors, d'accord, alors attends,
Non, je te posais cette question entre autres parce que c'est une réalité aussi qui devient presque clinique parfois de recevoir des personnes qui hébergent. Et quand on voit tous les drames qui peuvent se produire autour de ces questions d'hébergement, c'est pour ça que je posais la question.
Parce qu'on est du coup dans une vraie relation. Donc là, si on est dans une relation, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a des drames, il y a plein de choses qui se passent. Et dans ce cas, tout ce qu'on peut dire là, tout ce qu'on peut faire l'anthropologue sur le rapport à l'étranger, etc., bon, ben, est considérablement changé. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus, puisqu'on est dans le cadre, ça serait une autre recherche à faire qui serait être étranger dans un couple, par exemple, ou dans une famille. Effectivement, dans une même famille, il peut y avoir des gens qui n'ont pas la même nationalité, par exemple, n'ont pas la même couleur. tellement fréquent, quoi. Et des choses comme ça. Donc là, on pourrait faire ça, mais là, je suis pas dans cette enquête-là. Je suis là en enquête avec comment les étrangers se faufilent, quoi, finalement, dans différentes frontières qui les font accéder à une société ou autre. Alors, je veux juste. Alors, merci là pour cette question, parce que. Et puis là aussi, vous la posez aussi. J'aime les différences. J'aime la différence, j'aime le mot différence. C'est justement parce que j'aime les différences que je veux pouvoir cultiver les différences sans être complètement instrumentalisé dans le fait que cette différence voudrait dire, par exemple, des orientations identitaires différentes qui seraient figées, tu fais ça parce que tu dis ça parce que tu es colombien, par exemple, tu dis ça parce que tu es français, sinon je dis pas ça parce que je suis français, je dis ça parce que je suis moi, singulièrement, j'ai mes propres idées. Donc toute la richesse de la différence et toute la richesse culturelle en général que j'aime beaucoup, et j'ai passé des années, en plus avant de travailler sur ces thèmes, je travaillais sur les carnavals, donc l'inventivité du carnaval, c'est tout à fait, voilà, d'une grande richesse culturelle, mais justement aussi, d'ailleurs, c'est un autre sujet latino-américain très intéressant, obsédé par les questions d'identité, par exemple, toujours, on ramène toujours les questions d'identité, de race, de ethnique, etc., etc. Donc c'est pour ça que ni j'aime, ni j'aime pas. Bien sûr, je pense que la différence ou la diversité culturelle, c'est évidemment, c'est quelque chose de très riche et de très enthousiasmant, etc. Là où ça devient un sujet, un thème de réflexion et d'enquête, c'est dans le rapport à l'identité, dans le rapport ce qu'on appelle les stratégies identitaires, les tactiques, les usages de l'identité, qui fait que ça instrumentalise, à un moment donné, ça instrumentalise la différence culturelle. Voilà. Tout ça, c'est des choses, moi, je n'en pense pas de mal. Il faut que ce soit important. Justement, en tant qu'ethnologue, j'ai été formé là-dedans, et j'en pense pas de mal du tout. Mais justement, ayant d'abord travaillé dans ce domaine-là, ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète, évidemment aussi, pour une part, c'est les usages identitaires, les usages politiques, les usages de toutes sortes de cette richesse et de cette diversité culturelle. C'est ce en quoi c'est intéressant aussi, parce que c'est comme ça qu'on invente des traditions, c'est comme ça qu'on invente des cultures nouvelles, etc. C'est parce qu'il y a toujours un enjeu de société, un enjeu d'identité qui fait que les gens inventent des choses. Quoi. La question, bon, c'était la première, là, je remonte à l'envers. En effet, dans ce travail de déshumanisation, en fait c'est un travail de désocialisation, c'est-à-dire qu'il y a une mise à nu du corps où c'est pour ça que je pense que à un moment donné tout ce qui se passe là a à voir avec quelque chose comme le racisme au bout du compte, colonial, esclavagiste, etc. Le fait de laisser mourir. Il faut, pour laisser mourir, ou pour accepter que juste à côté de nous, des gens meurent, c'est ça moi qui m'obsède un petit peu, c'est pour qu'on accepte ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui est de l'ordre du racisme, qui vient de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on admet, l'idée socio-biologique ou biopolitique, on admet l'idée que des gens ont une humanité inférieure, il y a moins d'humanité. Et oui, donc finalement, on peut laisser mourir.
Il faut un discours qui précède, pour qu'on puisse en quelque sorte supporter, je ne sais pas, le soutien que ça, c'est le discours qui supporte le fait qu'on puisse vivre comme ça.
Oui, c'est oui, oui, non, c'est sûr.
Oui.
Martin.
Oui, vous faites le lien avec l'esclavagisme, le racisme, le 7e siècle, mais il n'y a pas si longtemps. D'abord, est-ce que vous faites le lien avec la montée de l'antisémitisme? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des Français qui se sont des gouvernements français et qui ont été réduits effectivement à des corps à exterminer, c'est-à-dire des étrangers, ils se sont découverts étrangers. Il y a quand même eu quelques millions de juifs qui ont été assassinés par leurs voisins. Je suis étonnée que vous n'ayez pas parlé du tout, d'autant que nous avons un représentant quand même de Primo-Lévis.
Ils sont partout.
Ça, c'est l'étranger à demeure. Et puis, il y a eu aussi l'Exodus, qui est allé de port en port, qui a fini par atterrir à Shanghai, qui est une ville juive, du coup. C'est un seul, un quartier juif, à Shanghai, très développé. Bon. Et c'était des Français. Et c'est leurs voisins qui les ont dénoncés, et c'est la police française qui les a arrêtés. Et ils ont été réduits effectivement à l'état de corps, même pas de corps d'ailleurs, de chiffon. Il y avait un terme allemand que je refuse à dire, qui veut dire chiffon. Oui, enfin, nous sommes dans le sud-ouest, on dit Gaïa.
En anthropologue, je me réserve de parler sur ce sur quoi j'enquête, mais je me permets juste l'hypothèse, l'antisémitisme est un racisme. On est bien d'accord. Donc on est dans la même dispositif horizontal.
Et il y a une montée actuellement de l'antisémitisme, y compris en France, partout, mais en France, qui est quand même très importante. Donc c'est pas seulement pour laisser mourir les gens dans...
Juste pour faire mon... par rapport à la pratique à Primo-Lévi, justement, parce que je pense, en tout cas... Et mon expérience, c'est surtout dans les prisons, parce que c'est très bizarre par rapport à des survivants, à des gens avec qui on peut travailler ça, c'est que c'est la différence est très faible, et Foucault l'a dit très clairement, c'est laisser vivre, et faire vivre et laisser mourir. Et les changements, il me semble, en Allemagne, c'est que c'est faire vivre et faire mourir. C'est là que Hitler a déclaré quelque chose et il a construit la machine à faire vivre et faire mourir avec une décision très claire, avec une race pure. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que c'est subtil, mais c'est laisser vivre qui est très compliqué et qui est vraiment que Michel t'y montre, c'est qu'on les laisse. C'est-à-dire que quand on voit les camps et les maps qui étaient à la planète, tous les camps, il y a plein de gens qui on laisse vivre, mais on les laisse mourir, parce qu'il n'y a rien, c'est-à-dire aucun État donne les droits à ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une différence majeure, parce que même j'ai eu 2-3 patients qui voulaient se quitter, se suicider, et qui venaient à ces moments-là, des infirmiers, des gens, qui sont les sauver pour les garder en vie. Mais les garder enfermés. Donc, et là, on retrouve Lacan pur qui dit pourquoi on les garde. Et on voit les grands autres, les sacrifices à un grand autre. C'est qu'il faut qu'ils vivent. Autrement, les tuer, ce qu'ils disent eux-mêmes, ils disent que ça aurait été très facile, quoi. Ils auraient pu nous éliminer. Mais ils nous gardent en vie, et aujourd'hui, il me semble que les camps et tous ces bords dont ils parlent sont des bords où les gens vivent, mais c'est une vie qui est un dehors, justement, de la biopolitique. Et là, il y a une grande différence, quand même, parce que je pense que, autrement, aujourd'hui, on peut cibler. On a vu Trump, comment, avec un ton, on peut arriver à cibler celui qu'on veut faire tuer, qui veut plus que... C'est-à-dire qu'on vit sur, quand même sur cette épée de Damoclès où on peut choisir la cible de qui on veut faire mourir. Mais c'est assez faire mourir qui me semble qui est très...
Mais tu sais, c'est pas si différent, parce que c'est, ce qui est peut-être différent, c'est l'étendue de la chose. Mais il y avait des camps d'extermination en Allemagne, mais en France, il y avait des camps de mort lente, qui s'appelle le camp de la mort lente, qui décrit un camp à Compiègne. Compiègne, c'est je viens de travailler à Compiègne, c'est à 70 km de Paris. On laissait mourir les gens aussi, sans en laisser mourir parce qu'il faisait froid, parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et il y avait des camps dans le sud aussi, je me souviens de le nom du camp.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Il y en a plusieurs. Oui.
Non, enfin, juste un mot pour rectifier, enfin, juste rectifier une chose. On est aujourd'hui en 2020 dans le contexte dont je parle, de migrants, réfugiés, etc., dans un contexte, on va dire, de camps humanitaires qui n'ont rien à voir, Je crois, moi, je me bats parce qu'à chaque fois, surtout en France ou en Europe, on me ramène ou on nous ramène vers ce modèle du camp de la mort. Et si j'ai cité Agamben, je ne l'ai pas fait sur ces sujets-là, parce que je le conteste beaucoup. Donc je pense que les camps de réfugiés aujourd'hui, qui sont des installations humanitaires où on survit, où on organise la survie des gens, on le fait même avec des démarches compassionnelles, etc., ça produit des formes de gouvernance, ça produit des formes de gouvernement des étrangers qui sont particulières, mais ça ne produit pas des camps de la mort, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça que moi je tiens à le faire, à faire ce point, parce qu'on est dans une autre histoire, on est dans une autre contemporanéité, là on est dans quelque chose, c'est pour ça que j'attire l'attention, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a des morts à notre frontière en Méditerranée, ça n'est pas la même chose que la Shoah, ça n'est pas pareil que la Shoah. Il y a des morts aujourd'hui qui peut-être ont des chances de continuer à se faire, que ça va continuer à faire partie de notre histoire et de notre géographie, c'est tout près. Et la question que j'essaye de plus ou moins de traiter, c'est comment est-ce que ça, maintenant, aujourd'hui, dans le contemporain, comment est-ce que ça, c'est possible. Voilà.
Merci pour ce point qui me semble fondamental. Vraiment. Est-ce que vous avez des questions?
C'est une question, et en même temps, c'est pour rebondir sur ce que disait Martine, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'il n'y a pas entre le faire mourir des camps de concentration et le laisser mourir actuel un point commun qui s'appelle la ségrégation? Parce que dans le fond, s'il n'y a pas un principe de ségrégation à la base, avec un principe de faire de l'alien, de ségréguer d'un côté les hommes qui méritent de vivre et de l'autre côté les aliens qui ne méritent pas de vivre, donc pour les nazis c'est les Untermenschen, donc les sous-hommes, avec toutes les déclinaisons qui ont été données après la vermine, etc., etc. Et à l'heure actuelle, ce sont alors je ne sais pas comment on les qualifie, mais ce sont des aliens aussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un mécanisme commun? Et derrière ce mécanisme commun, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui est lié à la structure, je dirais, de l'humain, qui fait que c'est ceux qui nous sont le plus familiers, ceux qui nous sont les plus proches, etc., qui sont les plus insupportables et qui doivent disparaître. Hein, donc ils doivent nous faire un petit peu... ils doivent nous faire de l'air. Hein. Je fais allusion là, à tout ce qu'a écrit Freud autour de l'unamiche. Hein, donc, le familier qui peut être terrifiant. Hein. Donc ça, on s'y retrouve bien du côté des réactions des Occidentaux par rapport aux Juifs dans les différents pays, hein, où c'était vraiment des gens très proches. C'est peut-être très différent, effectivement, des étrangers qui viennent d'Afghanistan, d'Afrique subsaharienne, etc.
C'est-à-dire qu'on peut devenir étranger à son insu. C'est-à-dire que
totalement.
Le gamin qui a été arrêté en 1942 parce qu'il était juif, tout d'un coup, il a découvert qu'il était étranger.
Il a même découvert qu'il était juif, des fois.
Thomas Mann le disait en Allemagne, qu'il a découvert qu'il était juif le moment de l'antisémitisme. Il ne le savait pas. Il ne s'identifiait pas en tant que juif. Donc, il était un citoyen allemand d'abord.
C'est l'histoire que
je disais. Et la notion d'étranger, elle est quand même. C'est pour ça que vous parlez de l'étranger et les juifs. C'est justement qu'on ne peut pas le cibler. Parce que enfin, on ne voit pas la couleur de sa peau, on ne voit pas de caractéristiques visibles. Donc l'étranger, c'est effectivement le même.
Moi, je ne peux pas rester insensible. Je crois pas dans un micro, j'ai une voix qui porte. Je ne peux pas vraiment rester insensible à ce que vous dites dans ce rapport avec la Shoah, parce que essentiellement, il a quand même fallu attendre la fin de la guerre pour qu'on découvre les corps. Donc tout ce temps-là, tout le temps de la guerre, on ne savait pas.
Si, on savait. Non, je ne suis pas d'accord. On ne pouvait pas le savoir.
Du témoignage de mes parents, je suis désolé, mon père, le premier, et de toute la famille, m'a bien fait comprendre que lors de la révélation, personne en France ne voulait y croire.
Oui.
Je ne dis pas des polémiques. Je fais un rapport avec ce que vous dites dans la mesure où
1942, c'est allemand.
Cette émigration qui vient d'outre-mer, on ne la découvre pas. Elle est ancienne. Ça fait combien d'années vous êtes sur le terrain? Visiblement, ça fait combien d'années? Alors, je ne sais pas quel parallèle faire exactement, mais entre ce qu'on découvre et ce qu'on sait, on attend quoi pour... si on n'a pas pu tout de suite intervenir, faire ce qu'il faut, je ne dis pas que sur le plan politique, ce serait très difficile, en dehors d'aller voter, je ne sais pas. Mais, vous voyez, un temps. Ce qu'on sait de l'immigration qui vient d'outre-Méditerranée, est-ce qu'on a découvert en 1944 dans les camps?
C'est ouvert, ces camps.
Ça dépend qui on appelle.
C'est quand même homicide dans les deux cas, quoi.
En tout cas, par rapport à ce que vous dites, Michel, tu développes juste un petit quelque chose sur l'humanitaire excessif, hein, à défaut du politique. Voilà. Mmh. Ça peut peut-être rejoindre ce que vous êtes en train de souligner. Je trouve que c'est intéressant.
La charité, c'est l'archi-charité.
J'aimerais poser, si vous permettez, une autre question, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur les camps. Hein, et dans votre livre Un monde des camps, j'ai découvert d'une façon aussi très étonnée l'étendue de l'existence des camps actuels. Il y a aussi une différente typologie, disons. J'ai découvert avec votre ouvrage les différents types de camps. Hein. Il n'y a pas seulement des camps des migrants. Donc, la question que je me posais, c'est que si dans ces curseurs que vous avez faits, c'est-à-dire qu'est-ce que ces différents camps isolent ou séparent, c'est-à-dire s'il y a une relation quelconque, qu'est-ce que ces murs des camps, ou ces camps constitués, comment ils se situent par rapport à ces différents types d'étrangeté que vous nous avez décrites aujourd'hui, s'il y a... Voilà.
Oh bah pour le dire, alors peut-être sans nuance, quoi, ils sont au plus bas, quoi, ouais, ils sont complètement... puisque précisément, quel que soit le multiples dans toutes ces typologies qu'on peut faire, le camp de réfugiés, le camp de déplacés, le centre de rétention, le campement, etc. Tous sont des espaces qui sont, comme on dit, extraterritoriaux. Ils créent une extraterritorialité, ils créent une exception et ils créent un monde à part. Alors, et même dans le campement, finalement, ce serait le, quand on dit le campement auto-établi dans le langage un peu onusien, etc., on dit les campements auto-établis, c'est un peu comme quand on parle des jungles, etc. Donc le campement auto-établi serait celui où les gens eux-mêmes ont voulu faire le campement. Bon, ben, ils ont voulu faire un campement parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un espace où ils pouvaient se mettre et pas les autres. Et donc ce seul espace où ils ont pu être, c'est ce qu'on appelle aussi dans certaines législations, d'ailleurs dans certains pays, c'est le principe de la tolérance. On vous tolère dans cet espace, on ne vous tolère pas dans les autres. Et donc, d'une certaine façon, c'est aussi un même modèle d'encampement. Et donc, dans ces cas-là, bon, ben, effectivement, l'encampement, c'est typiquement l'impossibilité d'avoir un espace et d'être mis dans un espace qui est en dehors de tous les espaces.
Il y a un là.
Je me demandais s'il faut poser la question du témoin ou des témoins dans cette situation des migrants, puisque pour ce qui est du monde contemporain, on est quand même à peu près au courant, en même temps on peut découvrir qu'on ne savait pas, mais même dans nos villes, il y a d'innombrables petites tentes à différents endroits. Et cette question des témoins, si c'est une des questions que vous posez, est-ce que vous pouvez éventuellement la développer un peu, puisque je pense que ça nous concerne dans notre domaine ici, la question du témoin.
Alors, on peut dire qu'il y a deux sortes de témoins. Il y a les migrants eux-mêmes, ou les réfugiés, ou les exilés, etc., qui eux sont témoins ou peuvent témoigner de ce qui leur est arrivé. Alors la difficulté dans ces cas-là, c'est que effectivement toute prise de parole est d'emblée soupçonnable et soupçonnée. C'est un petit peu alors là, il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites, d'études qui ont été faites là-dessus, sur le fait que le principe du soupçon, a priori, c'est ce qui permet, selon certains, par exemple au Canada, ça a été beaucoup commenté, le fait que le soupçon est quelque chose qui permet de ne pas croire au témoignage du migrant, du réfugié, sur son récit, sur ce qui lui est arrivé, et donc de diminuer le nombre d'asile qui sont donnés sans remettre en cause le principe du droit d'asile. On applique le soupçon à 80% des personnes en leur disant ce que vous dites n'est pas vrai. Et donc on se trouve comme ça avec à peu près 20% des demandeurs d'asile qui reçoivent un statut de réfugié ou un statut humanitaire. Alors il y a aussi, par ailleurs, il y a sur le sujet plus précisément dont je parlais là, de ce qui se passe avec les gens en Méditerranée ou qui meurent, etc., c'est qu'il y a maintenant beaucoup d'associations qui font du témoignage, c'est-à-dire qui veulent dire ce qui s'est passé. Alors c'est toujours un peu difficile, puisque là aussi il y a des recherches qui commencent là-dessus. Mais il faut pouvoir identifier les corps, il faut pouvoir identifier les personnes qui sont mortes, par exemple, en traversant la Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile, quoi, enfin, à faire, mais que certaines associations ont commencé à faire. Mais on peut dire que, d'une certaine façon, il existe un tissu associatif quand même très important en Europe en particulier. Je pense à la plateforme d'association qui s'appelle Migre Europe, et où régulièrement il y a des témoignages de migrants, ou des témoignages d'associatifs qui ont parlé, ou qui ont vu, ou qui ont échangé avec des migrants, qui peuvent raconter un petit peu de ce qui s'est passé. Il y a eu quelques... Il y a régulièrement, mais ce n'est pas régulièrement tenu, il y a eu une collègue italienne qui a fait pendant plusieurs années un site web qui s'appelait Story Migrante, qui était de recueillir des histoires de migration comme ça. Et je crois qu'elle s'est un peu lassée, et aussi lassée du fait que ça n'apporte pas grand-chose, ça ne changeait pas grand-chose. Il y a beaucoup d'ouvrages, de témoignages aussi, des gens, soit des migrants eux-mêmes qui témoignent, soit des gens qui ont... soit dans des associations, soit des journalistes qui ont, voilà, qui témoignent de cette réalité-là.
Oui, aussi quand même.
Est-ce que vous avez travaillé sur le déni du passé migratoire de la plupart des gens qui sont aussi, qui seraient censés être hospitaliers? C'est-à-dire que quand on remonte, parce que je ne connais pas les pourcentages, mais énormément de Français, par exemple, les grands-parents migrent. Donc la question, c'est comment faire cette liaison, et est-ce que c'est aussi un défi que nous allons essayer de tricoter, puisque finalement, il faut arriver non pas seulement à faire ce constat, mais aussi à renverser peut-être l'état d'esprit. Comment est-ce qu'on ça de l'autre côté?
Là, c'est plutôt, là, je vois pas des dénis. Alors, dans les enquêtes qu'on a faites sur un petit peu les motivations des gens qui ont voulu accueillir chez elles, des personnes qui voulaient accueillir chez elles des étrangers, beaucoup reviennent sur ce thème-là en disant « je suis un petit-fils ou petite-fille de réfugiés espagnols, de migrants, etc. » C'est quelque chose qui est très... Le concernement passe beaucoup et très souvent par une affaire personnelle. Je suis concerné personnellement, et c'est une des motivations très fortes d'accueillir des gens, parce que c'est toujours un geste qui est toujours un peu compliqué d'accueillir un étranger chez soi, et donc ça passe toujours par des collectifs et des tissus associatifs qui font la relation. Donc j'appelle ça une sphère de confiance. Et ça ne se fait pas tout seul comme ça. Il y a eu un développement incroyable ces dernières années d'un tissu associatif qui justement a été un petit peu fait pour recréer de la communauté, comme j'explique, recréer de la communauté derrière les personnes qui ont fait ce geste-là, qui n'est jamais nulle part un geste individuel. C'est toujours un geste qui engage la communauté. Et donc là... alors qu'on était tout seul, et nous, dans notre monde occidental, on est organisé socialement dans des toutes petites familles, et voire seul. Et donc, pour mettre en œuvre cette hospitalité, qui est une affaire en fait beaucoup plus collective, qui demande des principes collectifs, des réseaux, etc., eh bien, il y a eu ce développement d'un tissu associatif très important pour soutenir, garantir, rassurer les gens qui accueillent, dire oui, on connaît telle personne, etc. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, les gens qui veulent justifier, quoi, de toute façon, justifier pourquoi ils accueillent chez eux, la part d'identification est très importante. La part d'identification, au risque de se tromper, mais c'est-à-dire que des fois, le migrant qu'on accueille n'est pas la même chose que mon grand-parent espagnol. Et donc, il peut y avoir des malentendus. Il peut y avoir des malentendus dans cette... Il y a aussi souvent un goût de la différence. On accueille quelqu'un parce qu'il est complètement différent, parce qu'il est complètement autre, un petit peu exotique, et là aussi ça peut créer des malentendus, et voilà. Donc n'a pas, au contraire, ça réveille les histoires de migration dans la famille, et ça fait que les gens les racontent, ces histoires.
Oui, je vais vous poser deux questions. Vous avez évoqué Babel, me semble-t-il, et donc est-ce que vous voudriez bien en dire un peu plus sur Babel ou pas? Puis deuxième question, qui est un peu bizarre, mais avec ce qui se passe en Chine, je suis très frappée de l'indifférence, et en particulier je reçois des échos de personnes chinoises qui tout d'un coup se font traiter comme c'est pas possible avec le virus. Mais moi personnellement, je trouvais qu'on parlait jamais beaucoup de racisme anti-chinois, et que tout d'un coup, alors je suis, je sais pas, pas porteur de virus, disait une jeune fille, bon c'est peut-être pas le sujet tout ça, mais bon voilà, c'était deux questions qui me préoccupent.
Il y a eu déjà, il y a quelques années, il y a eu des manifestations de racisme contre la communauté chinoise à Paris. Enfin, il y a eu des manifestations de la communauté chinoise pour protester contre ce racisme. Mais effectivement, ça m'a intéressé. Alors là, c'est vraiment pour mettre à l'épreuve ou voir comment ça se passe, le mécanisme raciste, comment effectivement se... Et là, on est dans un cadre biopolitique où, effectivement, le racisme dans son principe, c'est-à-dire associé du biologique et du social, on n'est pas dans le racisme comme métaphore, mais le racisme du biologique et du social. Et là, on est en plein dedans, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça va aussi chercher sur le plan historique, etc. Je ne sais pas, je trouve que c'est intéressant de...
On réentend le mot péril jaune.
Oui. Et alors Babel, juste pour répondre à ça. Non, c'est juste parce que Babel, c'était un très beau programme de recherche qui s'appelle Babels, c'était son nom, les Babels au pluriel, et qui était. C'est un programme que j'ai dirigé pendant 3 ans, qui est terminé depuis quelques mois, qui a eu le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Et c'était au moment, en 2015, l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, a lancé un appel à projet pour mener des recherches sur le thème de la crise migratoire, etc. Et donc, en fait, on a fait un projet à ce moment-là qui était de, à la fois, mener des recherches de terrain et divulguer les recherches avec des petits livres, qu'on les appelait les petits livres de Babel. Comme ça, il y a eu 7 petits livres qui ont été faits sur différentes questions de la dite crise migratoire. Et ça a mobilisé à peu près une quarantaine de chercheurs, étudiants, etc. Voilà.
Il y a l'époque de Babel.
Oui, bien sûr, c'est tout ça qu'on a.
Enfin, dont on pourrait quand même tirer des leçons.
Oui, bien sûr.
Oui, moi je voulais vous demander quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'opposition de nos sociétés sédentaires face aux nomades. Donc on est construit autour de ce rejet des gens du voyage. On appelle ça les gens du voyage. Il y en a beaucoup, ils ne sont plus du tout du voyage. On les oblige à voyager. Bon. Et tous ces nomades, tziganes, roms, qu'on rejette depuis toujours. Toutes nos sociétés occidentales les rejettent. Je ne pense pas que ce soit la même chose en Asie ou en Afrique. Il doit y avoir d'autres systèmes de mobilisation des gens dans les espaces. Mais chez nous, c'est foncier, quoi. Et là, je pense que le rejet de l'étranger, notamment coloré, fait appel à ce vieux rejet de la personne qui arrive d'ailleurs et qui risque de vous choper vos poules. Bon, et le reste. Bon, et vos filles. Au passage.
Oui, merci beaucoup pour ce rappel d'un réel, d'une part, qu'effectivement on est à côté avec ce laisser mourir, et avec nos priorités du quotidien, on a tendance à le laisser à côté. Et aussi pour ce que vous apportez avec votre métaphore des trois curseurs, notamment, enfin des régimes d'étrangeté, disons, Et puis aussi avec cet archétype de l'alien pour penser tout ça, ou essayer de le penser. Ça m'amène beaucoup de questions comme l'alien en soi et d'autres choses de ce style-là. Là où j'ai envie de vous interroger ce soir, c'est sur différents régimes de citoyenneté. Est-ce qu'il n'y a pas une citoyenneté de second rang dans ces territoires encampés et éventuellement une citoyenneté de troisième rang pour ceux qu'on laisse mourir, d'une part, et d'autre part, au-delà de l'alien, dont on voit que cette hypothèse nous a ramené à la Shoah irrésistiblement, est-ce qu'on ne peut pas aussi rajouter une hypothèse de, par exemple, l'indifférence par le confort, tenir au confort, c'est-à-dire cette fois-ci pas une sorte de complexe de supériorité ou d'avoir une identité versus une hétérogénéité, mais bon, d'accord, on est on vaut pas grand-chose, aucun d'entre nous, simplement nous on dispose d'un confort et on n'a pas envie de céder quoi que ce soit là-dessus. C'est une hypothèse que je fais.
C'est
bien,
peut-être encore.
Oui. Je voulais témoigner de la qualité du travail à Babel. Justement, j'avais essayé autant que j'ai pu à écouter les chercheurs qui faisaient des présentations, et c'est lui qui, la recherche qui m'avait le plus estomaqué, c'était la recherche sur le bateau laissé mourir. Et le chercheur en question avait exposé, c'était quasiment une enquête détective, hein, je ne sais plus combien de jours ce bateau avait erré, mais à différentes heures de la journée, de la nuit, il avait calculé les flux, les courants, etc., etc., pour prouver que autour de ce bateau, il y avait 38 navires de différents pays qui étaient là. Et je me disais, je veux dire, parce que dire laisser mourir, c'est comme si on... Voilà, on avait le dos tourné et on n'a pas vu et on n'a pas su, on savait qu'à moitié. Et là, il y avait la preuve. Je veux dire, pendant une demi-heure, il a exposé tous les éléments de preuve que tout le monde, tous ces navires dans le Méditerranée étaient au courant, ils avaient entendu et ils ont choisi. Je veux dire, c'est quand même énorme. Je ne sais pas quoi faire avec cette information. Et je me demandais si... une recherche de cette qualité-là, en dehors du fait de dire beaucoup de choses, évidemment, sur plein de choses, est-ce que ça a un effet? Est-ce que ça peut éveiller? Est-ce que ça peut être utilisé autrement pour dire que ça ne se fait pas? Je veux dire, je ne sais pas comment... Je ne sais même pas quelle question j'ai envie de poser, mais c'est énorme.
Non, en fait, c'est une recherche de plus... C'est une enquête qui a été faite donc, par deux chercheurs qui sont... L'un des deux est maintenant en Suisse. Et en fait, il y a des juristes de Migreurope, de l'association Migreurope, qui se sont saisis de cette enquête et qui ont fait une procédure à... Alors, je ne sais plus, c'est à la Cour de justice européenne pour faire une plainte pour non-assistance personne en danger. Et donc, il y a une démarche juridique en cours avec ce matériel de preuve, parce qu'effectivement, c'est très difficile, et ça a demandé des années enfin, pour réussir à reconstituer l'événement, là, pour pouvoir argumenter et mettre en cause les polices. Ça met en cause des polices européennes, quoi. Donc il faut avoir des arguments. Je rapproche votre remarque sur le confort de la remarque sur les sédentaires et les poules. Oui, mais l'histoire, il y a un très bel article que je recommande d'un grand anthropologue qui s'appelle Emmanuel Théré, qui a écrit un article historique sur les sédentaires et les nomades. Et donc c'est dans un ouvrage qui s'appelle Combat avec Méduse. Donc il y a cet article, c'est un très bon article historique, où il explique en fait, alors sais pas si c'est rassurant ou si c'est pas rassurant, mais il explique qu'au bout du compte, c'est toujours les nomades qui gagnent dans l'histoire. Non, et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les nomades vont devenir sédentaires. Et donc, ce sont d'autres nomades qui vont aller un jour déranger les sédentaires et qui vont leur prendre leur place ou combattre d'une certaine manière. Etc. Donc, il remonte très très loin. Il prend ça aussi sur le plan militaire, parce que ça commence par une réflexion sur les armées mobiles et les armées fixes. Il dit que finalement, les armées mobiles misent toujours sur les armées fixes. Et puis après, sur les éléments d'histoire, sur les peuples en mouvement et le fait que... voilà. C'est-à-dire que si on se situe du point de vue des sédentaires comme du point de vue des gens qui sont là avec leur confort, bon ben voilà, not in my backyard, not in my backyard, je m'en fous, où vous voulez dans le monde, mais pas chez moi. Et donc ça, ça tient jusqu'à un moment où quelque chose fait que ça ne tient plus. C'est-à-dire, c'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire historique. Il y a un moment où il y a un contexte, etc., où, alors que ceux qui disent « not in my backyard » ou « pas dans mon poulailler », eh bien, malgré ce qu'ils disent, les choses vont se faire quand même. Lévi-Strauss écrivait dans les années 50, quand on lui avait demandé un texte sur le racisme à la sortie de la Deuxième Guerre, il a fait un texte qui s'appelle « Race et histoire », puis un autre « Race et culture ». Il a une très belle formule comme ça, où il explique que depuis toujours, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, il y a eu un tiraillement entre des forces centrifuges et centripètes, entre ceux qui tirent vers dedans et ceux qui tirent vers dehors, et ceux qui ouvrent pour tirer vers dehors, et que ça, c'est la dynamique de toutes les sociétés depuis toujours, que la seule chose dramatique qui puisse arriver à une société, c'est de s'enfermer complètement, parce qu'à ce moment-là, elle va dépérir. Donc je trouvais ça, enfin voilà, c'est aussi un autre très beau texte de Lévi-Strauss. Et donc ces forces-là, qui sont en fait, à un moment donné, ce que les gens peuvent avoir en tête, bien sûr, ça compte, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête les processus historiques qui se passent. Il y a d'autres gens qui ont d'autres choses en tête, et c'est comme ça que les choses bougent.
Bon. Peut-être on va finir avec ces mots, cette ouverture, justement, des bases renfermées. Merci beaucoup.